bonjour à toutes et à tous. Je vous rappelle que la semaine prochaine, il n'y a pas cours. Il y a une petite interruption. Car l'histoire est par essence science du changement. C'est Marc Bloch qui écrit cela durant l'été 1940, après l'étrange défaite. Son texte, d'ailleurs, ne se nomme pas encore ainsi, mais simplement « Témoignage 1940 ». Il est destiné à être publié après la libération de la France, et il le sera en 1946, mais, vous le savez, de manière posthume. Il fut écrit à Fougères, nom de lieu qui devint son nom de résistance, et c'est bien de cela dont il s'agit, d'un acte de résistance intellectuelle, résistance à l'attrait du déclin, appel à la jeunesse du monde, combat contre soi-même et contre la première inclination vengeresse que lui inspire la débâcle. Alors, de l'étrange défaite, on a surtout retenu la critique des élites, et particulièrement des élites militaires, mais à le relire aujourd'hui me frappe surtout la prégnance de l'autocritique du pouvoir intellectuel des historiens, en tant qu'ils sont toujours prompts à transformer, je cite, « les exemples du passé en autant d'expériences naturelles », écrit-il. Or, l'expérience, justement, c'est autre chose. Et le mot ne cesse de revenir sous sa plume, ça aussi, ça m'a frappé, qui oppose systématiquement le récit exemplaire dans lequel se sont égarés les supposés stratèges de 1940 qui souhaitaient refaire la guerre comme ils l'avaient apprise, et l'histoire, en tant qu'elle est précisément un trésor d'expérience. Dans la première partie, présentation du témoin, Marc Bloch entend, je cite, « montrer comment se circonscrit mon expérience pour exposer le point de vue de sa narration, ce qu'il voit, ce qu'il ne voit pas ». La deuxième partie, la déposition d'un vaincu, pose la question de la culpabilité, à qui la faute, qui est retournée contre le témoin dans la troisième partie, examen de conscience d'un Français. Mais l'ensemble consiste bien à établir l'histoire comme une discipline d'expérimentation, examinant comment hier a différé d'avant-hier et cherchant dans ce rapprochement le moyen de prévoir en quel sens demain, à son tour, s'opposera à hier. Prévoir, oui. Vous avez bien entendu, Marc Bloch ne s'oppose pas absolument à, disons, la fonction prédictive de l'histoire. Elle peut s'essayer à pénétrer l'avenir, écrit-il. Mais c'est, vous l'aurez remarqué, au prix d'une précipitation qui fait disparaître l'aujourd'hui entre hier et demain. L'urgence des temps justifiait alors sans doute cet appel fiévreux à l'avenir. C'est comme ça que ça se termine. La France de la défaite aura eu un gouvernement de vieillards. La France d'un nouveau printemps devra être la chose des jeunes. Et permettez-moi, au passage, de vous citer une histoire qui me touche beaucoup, parce qu'elle explicite sans doute quel sens il y a à dire aujourd'hui que la profession d'historien consiste à se rendre redevable à la jeunesse. Cette histoire, on la doit à Georges Altman, qui est un ancien dirigeant de Franc-Tireur, qui signe l'avant-propos à l'édition originale de L'étrange défaite, en 1946, donc, et relate les circonstances du recrutement de Marc Bloch au maquis au printemps 1943. Et il dit qu'il revoit cette minute charmante, écrit-il, où un très jeune résistant, Maurice, qui a alors 20 ans, lui présente sa nouvelle recrue. Et sa nouvelle recrue, c'est cet homme d'une cinquantaine d'années, un peu courbé, avec une serviette à la main, une canne de l'autre. C'est Marc Bloch qui, un peu cérémonieux d'abord, sourit à donc son hôte et lui dit « C'est moi, le petit nouveau, le poulain de Maurice ». Évidemment, c'est une histoire que Laurent Douzou aime bien raconter parce qu'elle montre comment se construit la légitimité dans la lutte clandestine, c'est-à-dire par l'expérience, justement, et l'expérience du combat. Eh bien, un jeune homme de 20 ans peut la voir plus intensément qu'un homme mûr de 50. Et alors, George Altman dit qu'il lui tend la main, cette même main, qu'il va tendre vers un an plus tard, le 16 juin 1944, vers un jeune garçon de 16 ans avec qui il allait se faire fusiller. « Ça va faire mal ?» lui demande le petit garçon. « Mais non, petit, cela ne fait pas mal. » Car l'histoire est, par essence, science du changement. Elle sait et elle enseigne que deux événements ne se reproduisent jamais tout à fait semblables parce que jamais les conditions ne coïncident exactement. Voilà pourquoi il serait sans doute périlleux de dire qu'en 1521, avec son art de la guerre, Machiavel écrivit quelque chose comme son étrange défaite, sinon peut-être en prêtant l'oreille à l'assonance que font les deux textes dès lors qu'ils font cingler un désenchantement actif, nerveux. Tout le contraire, bien évidemment, du découragement d'une intelligence affaissée sur elle-même, car trop confiante en ses propres capacités. Les pauvres, ils ne se rendaient pas compte qu'ils se préparaient à être la proie de quiconque les attaquerait, d'où provinrent, en 1494, de grandes frayeurs, de soudaines fuites et d'étonnants désastres. Cette fois-ci, vous vous souvenez, c'est Machiavel qui parle, et je vous avais laissé la semaine dernière sur cette ère désabusée qui disait que ce petit tas de ruse et de beauté accumulée qu'on appelle une culture, en l'occurrence ici, pour les princes italiens du Quattrocento, une culture humaniste, ne leur furent alors d'aucun secours pour affronter la méchanceté du monde. Et pire, les avait d'une certaine manière affaiblis dans la croyance trompeuse que, au fond, la mise en beauté de leur pouvoir était une mise en défense. Et vous vous souvenez aussi combien c'est difficile à entendre, combien ça heurte notre croyance, une croyance lettrée que nous avons précisément héritée de cette révolution symbolique que fut le mouvement humaniste. Voilà pourquoi on peine tant à mettre à distance cette attirance spontanée que nous inspire l'Italie princière. Tout nous y pousse, et cette insistance inexorable et douce, plus forte que la force, je propose de l'appeler l'effet muséal, ou même plus simplement le musée, le moyen de lutter contre. Lorsqu'il faisait cours au Collège de France en 1998 sur ce qu'il avait appelé l'effet Manet, Pierre Bourdieu avait éprouvé cette extrême difficulté et voilà pourquoi d'ailleurs ses cours étaient à ce moment-là si difficultueux. Il tentait de faire l'histoire d'une de ces révolutions symboliques, celle de la modernité picturale incarnée par Édouard Manet. Et c'était difficile car, je cite, « nos catégories de perception et d'appréciation, celles que nous employons ordinairement pour comprendre les représentations du monde et le monde lui-même, sont nées de cette révolution symbolique réussie. Dès lors qu'une révolution réussit, alors ce qui était objet d'étonnement ou de scandale est devenu évident, et si évident en somme que le renversement qu'il produit en devient invisible, puisque nous le poursuivons, nous l'incarnons, nous voyons les choses à partir de ce point de vue. Il conviendrait donc de nommer cette difficulté que vise Machiavel lorsqu'il met en regard la mise en beauté du pouvoir et l'illusion de sa mise en défense, je l'ai dit, et cette mise en regard, qui est au sens propre un effet de symétrie entre deux miroirs affrontés, précisément à avoir avec les arts visuels. On peut donc partir de l'hypothèse suivante que je proposerai ici en 1521, lorsqu'il écrit l'art de la guerre. Machiavel dresse un constat qui est celui de la faillite du monde albertien, du nom de Léon Battista Alberti, né en 1404, mort en 1472, poète, érudit, théoricien du pouvoir et des arts, auteur à la fois de traités, de savants, de décryptage des codes secrets, mais aussi de satire littéraire, le Momus, que connaissait très bien Machiavel, en un mot, Alberti, l'humaniste, qui semble incarner le rêve de l'homme universel propre au Quattrocento, qui, sa vie durant, s'est adapté avec souplesse aux attentes d'un public varié, de pouvoir concurrent, qui, pourvu qu'il ait à faire de grandes choses, écrivait-il, était capable de travailler aussi bien pour le pape Pie II à Rome que pour son pire ennemi, Sigismondo Malatesta, à Rimini, au point que Cristoforo Landino, qui était un humaniste de la cour de Laurent le Magnifique à Florence, où se forgea la réputation d'Alberti, au point qu'il a pu le comparer à un caméléon. Il prend toujours la couleur, se trouvant dans la chose à propos de laquelle il écrit. En tout cas, dès qu'il écrit sur quelque chose, il écrit depuis le point de vue de ce quelque chose. Lui qui n'est pas peintre, lorsqu'il rédige le De Pictura en 1436, il prétend parler comme un peintre, parlo come pictore, c'est-à-dire qu'il parle en réalité de part et d'autre du rapport mécénal qui s'établit entre le prince et l'artiste. Et il joue de fait de la diglossie qui est propre au système médiéval des langues et des pouvoirs, puisque en réalité le De Pictura est rédigé deux fois. Une fois dans sa version italienne et dédicacée à Filippo Brunelleschi, qui est considéré effectivement à ce moment-là comme l'inventeur de la construction perspective, et une autre fois la version latine offerte à Gianfrancesco Gonzaga, marquis de Mantoue, qui incarne alors les espoirs que les humanistes mettaient dans la figure d'un prince cultivé, protecteur des arts. C'est donc le De Pictura est un discours de la méthode plus qu'un traité technique. Il expose non seulement, je dirais, les principes de perspective picturale les plus rigoureuses qui soient, celles qui étaient pratiquées dans les années 1430-1460 et qui, au passage, vont d'ailleurs se démoder assez vite à la génération suivante. Et il décrit, au fond, eh bien, justement, des principes qui sont des principes de narration. Et un principe de narration, c'est fondamentalement circonscrire le cadre de l'expérience. Et circonscrire le cadre de l'expérience, ça veut dire, au sens propre, ce qu'un cinéaste appellerait faire son cadre. Ainsi, laissant le reste de côté, je ne mentionnerai que ce que je fais quand je peins. D'abord, j'inscris sur la surface à peindre un quadrilatère à angle droit aussi grand qu'il me plaît, qui est pour moi en vérité comme une fenêtre ouverte à partir de laquelle l'histoire représentée pourra être considérée. C'est la fameuse finestra albertienne, la fenêtre, le cadre de la représentation, mais dont il faut bien comprendre que ce n'est pas une fenêtre ouverte sur le monde, mais sur l'histoire. C'est pour effectivement cadrer, borner, circonscrire l'histoire que l'on a à raconter. Et donc, le cœur, effectivement, de la démonstration, c'est la storia. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la storia pour Alberti, qui, à ce moment-là, parle comme un peintre, mais un peintre en tant que, dans ce système humaniste, ce sont les arts visuels qui sont les arts directeurs de l'ensemble, effectivement, de la culture. Le peintre, imitateur de la nature, ne doit pas laisser passer toute la réalité visible par la fenêtre qui forme le cadre de sa construction visuelle, mais au contraire, séparer, découper, discriminer le réel pour ne retenir que ce qui fait sens, ce qui construit un récit et ce qui est proprement éloquent, puisqu'une storia, c'est une manière de convaincre le spectateur par un récit ordonné, c'est-à-dire effectivement réglé par les lois de la perspective, discipliné par ces lignes de fuite que Alberti appelle les ministres du voir. Donc vous voyez que tout est politique, évidemment, dans cette manière, et ces ministres du voir que sont les lignes de fuite de la perspective, eh bien, elles vont pouvoir garantir l'équilibre des pigments entre les couleurs. Existe une certaine amitié en vertu de laquelle, une fois jointes, l'une augmente chez l'autre la grâce. Daniel Arras, au moment de mourir, avait en chantier une lecture politique des Pictura dont il a donné quelques éléments dans ses entretiens radiophoniques. Et cette lecture politique, elle permet de faire comprendre l'ensemble du système albertien des beaux-arts, puisque, effectivement, il a écrit sur la peinture, il a écrit sur la sculpture, le déstatuaire, et il a aussi écrit sur l'architecture, le dere edificatoria, le dernier art à être pris en charge. Dere edificatoria, ça veut dire non pas traiter de l'architecture, mais traiter du fait de l'art de bâtir, ce que bâtir veut dire, on pourrait dire, sur... en paraphrasant Pierre Bourdieu, avec l'idée que l'architecte délivre lui aussi un discours moral de modération, d'équilibre, d'économie, d'éloquence, qu'il s'agit de condamner le faste, l'ornementation excessive, l'oubris du bâtisseur, ce désir déréglé d'édifier pour justement prôner la plus sévère retenue qui est celle, justement, romaine. Rhétorique. Et évidemment, c'est en se fondant sur ce qu'il appelle au livre 4 les antiques fondateurs des républiques et des lois qu'Alberti définit un lexique architectural qui exprime au fond, sans ambiguïté, croit-il, la typologie des régimes politiques. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, dans ces traités, qui sont les traités apparemment techniques, des arts visuels de l'Italie du Quattrocento, tout est affaire de narration, d'éloquence et de rhétorique. Et ce langage, pour être efficace, doit être partagé, doit être une expérience commune, parce que c'est ça la croyance, effectivement, humaniste. Cette langue des arts visuels est une langue vernaculaire, elle est comprise par tous. Il y a une disposition innée à saisir la beauté d'un édifice. On peut s'en étonner, écrit Alberti, et se demander pourquoi la nature nous fait immédiatement sentir, à tous, ignorants comme savants, ce qu'il y a de juste ou de vicieux dans la conception des choses et dans leur exécution, en particulier dans ces questions où le sens de la vue l'emporte en acuité sur tous les autres. Or, et voilà... je voulais en venir, cette beauté innée, spontanée, partagée, s'impose et intimide parce qu'elle est proprement désarmante. C'est une protection contre la violence qui rend les choses inviolables. Or, je le cite, « la beauté obtiendra même de la part d'ennemis acharnés qu'ils modèrent leur courroux et consentent à la laisser inviolée. » Inviolée. Donc, l'artiste, s'il met en beauté le cadre d'exercice du pouvoir princier, c'est pas simplement pour être agréable son protecteur, mais c'est pour l'aider à construire une défense. Une défense contre les envieux, contre les jaloux, contre les méchants. Cette proposition est sidérante. On comprend d'ailleurs pourquoi Alberti est chéri aujourd'hui des architectes, qui voient quand même une idée très consolante et très douce hein, en tout cas qui les arrange beaucoup, parce que si effectivement la mise en beauté du pouvoir est une mise en défense, alors personne ne s'étonnera effectivement qu'on dépense de l'argent dans des travaux publics. Est-il besoin de dire que tout dans l'histoire dément un tel idéalisme et qu'on ne peut pas entendre justement aujourd'hui cette belle profession de foi humaniste sans l'entendre accompagné du rire machiavélien, puisque c'est ça qui vise, évidemment. Mais il faut comprendre que ce déniaisement de Machiavel emporte tout sur son passage, et en particulier peut-être la croyance centrale de l'humanisme en une rhétorique commune au genre humain qui nous entraîne dans une seule et même narration. Et en ce sens, je dirais que Machiavel est emporté par la vague qu'il produit. Il pense largement contre lui-même et contre sa volonté de faire consonner ce qu'il appelle, dans la lettre dédicatoire au prince, la longue expérience des choses modernes et la continuelle lecture des antiques. Dès lors, à partir de ce point de répulsion machiavélien, depuis ce 15e siècle défait et désenchanté, il convient de reculer encore dans le siècle et de poursuivre, me semble-t-il, l'archéologie de cette croyance humaniste en un grand récit homogène, rendant compte de toutes les expériences politiques par une seule et même narration qui serait à tous et toutes, selon son niveau d'expérience et de savoir, partageable. Et si on veut continuer à simplifier à outrance en s'abandonnant à la logique des grands patronymes, mais au fond, c'est aussi ce dont il s'agit aujourd'hui, penser l'emprise du nom propre sur l'expérience politique, eh bien, on se retrouve en compagnie de Pétrarque. Pétrarque, qui émonde l'histoire de l'Italie au tranchant de la langue latine, qui passe en somme au fil de son rasoir les commentaires, engonçant, étouffant les textes, qui débroussaille les gloses médiévales placées là par ceux qu'il appelle tantôt la foule des commentateurs, le troupeau insensé et criard, les enfants ridés de la scolastique, c'est-à-dire des gens qui, effectivement, par justement la force de son verbe, deviennent d'un coup à la fois très vieux et très puéril. Parce que, justement, ils répètent, ils commentent, ils reprennent. On décode mieux aujourd'hui ce dédain contre la glose, le commentaire, quand on sait effectivement que ce commentaire, dans le monde universitaire et urbain qu'il condamne, qu'il méprise, est averroïste. Quand on a lu Alain de Libera et qu'on comprend que ce qui est congédié là, sous le nom de Moyen-Âge, est la circulation des savoirs arabo-latins. Ernest Renan le savait, qui citait déjà dans son Averroès et l'Averroïsme publié en 1852 cette lettre de Pétrarque à Giovanni Dondi, qui lui parlait de la médecine arabe, la seule qui soit considérée, y compris dans les cours princières à ce moment-là. Et Pétrarque lui répond: « Je te prie de grâce en tout ce qui me concerne de ne tenir aucun compte de tes Arabes, pas plus que s'ils n'existaient, je hais toute cette race. » Eh oui, et c'est ça aussi Pétrarque. Et la question, Pétrarque, celui que nous portons au nu. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce que Pétrarque déteste tant? Qu'est-ce qu'il appelle le génos, cette race? Je la hais. Ce qu'il déteste est ce qu'on pourrait appeler la complication gréco-arabe, celle qui divertit de la voie romaine qu'on nous présente aujourd'hui à nouveau. C'est une régression, évidemment, comme stricte et linéaire, celle qui mène tout droit de la Rome antique à l'Italie d'aujourd'hui, ou plus exactement, celle que Pétrarque est en train de rêver contre la société dans laquelle il vit. Car Pétrarque jette lui aussi un pont entre avant-hier et demain, façonnant ce qu'on pourrait appeler non pas le mouvement humaniste, mais l'idéologie humaniste, puisque, vous vous en souvenez, l'idéologie, c'est une violence faite au monde tel qu'il est, depuis l'idée qu'on se fait de ce qu'il devrait être. Et à force de penser le monde contre le monde, on finit par le façonner à la ressemblance de sa propre détestation. Le texte majeur est, de ce point de vue, son grand poème épique en hexamètre latin, Africa. Commencé dans le Vaucluse en 1338, ce vaste poème en 9 livres, qui demeure aujourd'hui à l'état inachevé, narre les exploits de Scipion l'Africain contre Carthage, puis les moments les plus épiques de l'histoire de la République romaine. Donc Pétrarque tente de faire là, dans Africa, avec les aventures de la libertas romaine, quelque chose comme l'épopée nationale des Italiens. Trace un trait net et acéré, et pour tout dire impérial, entre l'Afrique et l'Europe. Il ne sut jamais se séparer de cette œuvre de jeunesse dont le message profondément républicain devenait de plus en plus intempestif au fur et à mesure qu'il faisait lui-même des choix personnels anti-républicains, qu'il trahissait la cause de Cola di Rienzo, qu'il allait à la cour des Visconti à Milan. Bon, voilà, de Giovanni Visconti. Donc, tout cela, effectivement, fait que le texte, d'une certaine manière, il ne s'en débarrasse pas parce qu'il l'embarrasse de plus en plus. Dédié au roi Robert de Naples, qui meurt en 1343, jamais publié de son vivant, il ne le sera qu'en 1397, 30 ans après la mort du poète couronné. Et on voit bien que, au fond, l'Africa est une adresse du siècle de Pétrarque à celui qui suivra. C'est bien le problème avec Pétrarque, c'est qu'il oblige les historiens qui, par profession, ne doivent pas croire à l'idée qu'il puisse y avoir des précurseurs, c'est-à-dire des gens qui sont, d'une certaine manière, déplacés dans leur propre temps, à quand même considérer, je dirais, la dimension anachronique qui est constitutive de sa beauté littéraire. Ben oui, parce que c'est beau, hein. C'est ça le problème. Hein. Si ça ne nous plaisait pas, on n'en parlerait pas. Mais c'est à la fois très détestable et très beau. Par exemple, mélancolie qui teinte la fin du poème s'adresse à quelqu'un qui lui survivra. Fasse le ciel que nous prions en vain. Il arrête d'espérer. 3 points. Mais nous prions en vain. Il n'est point de retour. On vit les derniers temps. Et Jupiter cruel nous voit d'un ciel hostile. Acceptons notre sort et suivons nos étoiles sans qu'elles ne nous forcent. Il me fut assigné d'essuyer en ma vie de nombreuses tempêtes, mais toi peut-être, si comme j'espère et souhaite, tu me survis longtemps, des siècles surviendront meilleurs. Le poète s'efface donc, je cite toujours dans la belle traduction de Pierre Laurence, attendant la venue d'une aurore nouvelle. Cette aurore nouvelle est celle de la renaissance des lettres qui est à venir, dans une autre époque. Chaque époque rêve la suivante, écrivait Michelet, l'inventeur de l'idée de renaissance. Voilà pourquoi toute défense et illustration de la renaissance, non comme concept, mais comme chrononyme, comme nom d'époque, est un contresens. La Renaissance existe sans doute, mais non comme une chose, plutôt comme une conscience de soi. Et si l'on peut dire avec Hans Blumenberg dans « La légitimité des temps modernes », les temps modernes existent au moment où ils se déclarent tels, il convient de s'interroger sur leur mode d'existence. Or, il est vrai que l'humanisme situe parfois cette renaissance ici et maintenant. Lorenzo Valla, préface des élégances de la langue latine, 1449, « Aujourd'hui, les arts se réveillent et renaissent ». Le plus souvent, elle projette cette culture humaniste à l'horizon, cette renaissance. Il en va de cet horizon comme de l'horizon théologique de l'impérialité dont on a parlé lors du colloque de septembre sur l'eschatologie impériale du souverain. Un horizon, ça définit une ligne fuyante de séparation. Un horizon, ça fuit vraiment, mais ça sépare vraiment. Ça nous amène à reculer indéfiniment le geste de la définition historienne, Moyen-Âge, Renaissance, qui est visiblement nécessaire, mais obstinément retardé. Donc, on nomme Renaissance, non pas l'époque où les lettres romaines reviennent, mais où elles reviendront. Or, pour Pétrarque, point de doute, lui ne le verra pas, c'est en cela qu'il est effectivement déplacé dans son siècle. Il s'adresse à un toi qui vivra l'aurore, donc il est redevable à la jeunesse d'une certaine manière lui aussi. Mais il est persuadé que si les lettres reviendront, elles ne peuvent revenir qu'en Italie. Son humanisme est aussi un nationalisme, parce que lorsqu'il accuse la scolastique universitaire d'étouffer les textes dans leur pureté originelle par le lierre asphyxiant de la glose qu'il s'attache effectivement à émonder, lorsqu'il accuse la scolastique universitaire de mettre à distance la poésie et la littérature comme savoir légitime, il n'ignore pas que cette scolastique universitaire a alors une capitale incontestée qui est Paris. Dans la première lettre du 9e livre des Lettres de vieillesse, qui est daté des premiers mois de 1368, Pétrarque exhorte le pape à résister aux pressions des Français qui s'opposent au retour de la papauté à Rome, parce qu'évidemment, derrière tout ça, il y a la question du schisme. Et lui qui ne concède aux Français qu'une seule supériorité, il n'y a pas en France de vin de Beaune, écrit-il, pour le reste étant la philosophie, l'histoire, la sagesse, l'éloquence, les arts, la politique, les livres sont là pour témoigner, écrit-il. Si en effet des étrangers se sont essayés avec bonheur dans ces domaines, ou bien ils ont imité les Italiens, ou bien ils ont soit écrit en Italie, soit étudié en Italie. Donc ça, c'est effectivement la constitution aussi de l'humanisme comme conscience nationale. Cinq ans plus tard, en 1373, Pétrarque adopte le genre romain de l'invective pour répondre au maître de l'université de Paris, justement, Jean de Hesdin, qui dans son apologie vantait les mérites comparés de la France sur l'Italie, précisément pour retenir le pape. Il écrit que le Gaulois dresse à présent l'oreille et que sa crête insolente retombe afin d'écouter non pas éternellement ce qui lui fait plaisir, mais parfois aussi ce qui est vrai. Et au-delà de la question politique, au-delà même des stéréotypes qui, en miroir, qui commencent, Patrick Gilly l'a montré, à se constituer entre la France et l'Italie, c'est la défense même de la méthode humaniste d'accès direct au texte antique qui est en cause dans le « contre celui qui maudit l'Italie » de Pétrarque, qui est le nom de cette invective. La charge, d'ailleurs, était si violente que qu'après la mort de Pétrarque, des humanistes français comme Nicolas de Clamant, j'essayais encore d'y répondre. C'est bien que l'œuvre latine de Pétrarque constituait pour la culture française un défi, un redoutable défi, un puissant stimulant aussi. Or, c'est dans ce texte que l'on trouve la formule clé que je veux ici mettre en exergue. Pétrarque rappelle combien l'accroissement de l'Empire apporta aux Romains anciens, l'habitude de la victoire et avec elle la générosité à l'égard des vaincus. Contrairement à ceux qui remportent un premier succès et qui, écrit-il, faute d'habitude, délire de joie et perdent la tête, les Romains, eux, comme ils gagnaient tout le temps, ils accueillaient ce bonheur routinier avec sagesse. Et là vient le passage décisif. Mais pourquoi m'efforcer de donner toutes ces précisions ? Si je voulais les citer une à une, il me faudrait réécrire tous les ouvrages illustres que les auteurs ont composés au cours des siècles. Qu'est-ce donc que l'histoire, sinon l'éloge de Rome ? Ainsi donc, tout file droit, de Rome à Rome. Et ce, d'autant plus que Pétrarque démarque ici une lettre de saint Jérôme. Qu'est-ce qui est sauf si Rome périt ? Et montre au fond que Rome est le tout de l'histoire, que Rome donne le nom à toute l'histoire, à l'histoire en tant qu'elle aspire au tout. Et là, effectivement, on est dans une conception philosophique très, très haute. Jean-Claude Milner, dans un texte sur qui s'appelle Lacan, le juif, et qui montre que le nom juif est entendu comme, je cite, un vacarme silencieux qui éclate aux oreilles des fidèles du tout, montre de quelle complication, justement, la psychanalyse, en l'occurrence la psychanalyse lacanienne, fait payer les adeptes, les turiféraires du grand tout, et qu'au fond, il convient même de traduire plus durement encore le latin de Pétrarque, « Quid est enim alio domnis historia quam romana laos », soit donc « Qu'est-ce que l'histoire quand elle s'ordonne du tout, sinon un éloge de Rome ? Qu'est-ce que l'histoire qui, lorsqu'elle s'ordonne du tout, c'est-à-dire lorsqu'elle se prétend universelle et qu'elle ne cessera pas de l'être si elle ne croit plus en la Providence, mais se maintient sous des lois d'airain qu'on invente pour guider et contraindre le devenir des sociétés humaines. C'est bien pourquoi je proposais dans un livre paru en 2012 et nommé « L'entretemps » de considérer avec sérieux les conséquences possiblement funestes d'une telle conception de l'histoire qui, que l'on pourrait dire orientée, qui tire des généalogies au cordeau et qui oblige chacun à filer droit. Or, si je reprends mon texte de Marc Bloch à la page où je l'avais laissé tout à l'heure, j'y retrouve cette idée. L'histoire est donc, vous vous en souvenez, cette discipline d'expérimentation examinant comment hier a différé d'avant-hier et cherchant le moyen de prévoir en quel sens demain, à son tour, s'opposera à hier. Je poursuis donc. Sur ces feuilles de recherche, les lignes dont les faits écoulés lui disent le tracé ne sont jamais des droites. Elle n'y voit inscrites que des courbes, et ce sont des courbes encore que, par extrapolation, elle s'efforce de prolonger vers l'incertain des temps. Si l'on vise comme horizon de connaissance, non pas la certitude obstinée de la répétition du même, non pas le plaisir facile de prétendre avoir toujours raison et d'être comme le chien qui aboie quand la caravane passe, Si l'on vise comme horizon de connaissance, de savoir, Marc Bloch dirait même la science, que confère l'expérience des incertitudes du temps, si l'on tente de conjoindre avec Machiavel lecture continue des choses antiques et longue expérience des choses modernes, en ne s'abandonnant pas complaisamment aux rimes faciles, telle chose du passé me fait penser à tel fait aujourd'hui, ou plus souvent l'inverse, cette connaissance par assonance doit donc épouser les courbes du temps, ou disons ces bifurcations. Le bivium, la racine de l'Y qui sépare deux chemins, c'est la grande figure pétrarchienne du temps qui désigne le carrefour où les voies se séparent, la croisée des chemins qui désoriente le voyageur, mais qui peut décider de sa vie. C'est Pétrarque, effectivement, au sommet, c'est toujours au sommet que sont les carrefours, et qui dit, est-ce que je dois aller là ou là? Est-ce que je dois porter mes regards vers l'Italie ou vers la France? On me couronne à Rome, on m'espère à Paris. Ce bivium, donc, au fond, il faut, pour le saisir à la racine, reculer encore le temps et se placer justement, disons, au milieu du XIIe siècle. On recule ensemble. Parce que c'est là où va, d'une certaine manière, prendre naissance le buissonnement des expériences politiques, ce buissonnement que va élaguer l'humanisme. Et il faut donc reculer pour saisir comment tout ce buissonnement d'expérience a été possible en Italie et comment, effectivement, il s'est progressivement étréci, ça, on ne va pas le voir dans un quart d'heure, mais progressivement étréci dans cette ligne romaine et princière. Si on veut voir le buissonnement aux origines, il vaut mieux le voir avec les yeux de quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il voit. C'est généralement le meilleur témoin. Car cette incompréhension face à la réalité est un puissant moteur de transformation historique. Alors, je prends, c'est vraiment très banal, le texte phare des origines de l'Italie communale, c'est-à-dire la relation de voyage de l'évêque Othon de Freising, neveu de l'empereur Frédéric Barberousse, en 1154. Voilà. Il passe les Alpes et il voit l'Italie qu'il pensait terre d'empire et qui cesse de l'être. Il retrouve un camarade ancien qu'il croyait connaître et qui a beaucoup changé. Et il consigne cet étonnement et cette déception dans ces Gesta de Frédéric Ier Barberousse. Il constate que l'Italie est devenue un pays de ville qui surpasse en richesse et en puissance les autres villes du monde. Il est impressionné par leur prospérité et il s'indigne de leur insolence. Et voilà effectivement le scandale pour l'auguste prélat allemand de haute naissance. Les communes consulaires triomphent partout. L'ordre urbain s'impose à tous au point de remettre en cause des principes aussi sacrés que la monarchie héréditaire et la domination féodale. De là vient que, presque toute la terre étant divisée entre les cités, chacune oblige les habitants de son territoire à rester avec elle et qu'on aurait du mal à trouver un noble ou un grand assez ambitieux pour ne pas se conformer aux ordres de sa cité. Ça veut dire très banalement que effectivement là l'Italie est ce pays bizarre où les nobles sont en ville. Mais être en ville, ça veut dire d'une certaine manière obéir à l'ordre urbain. Et c'est de ça dont on aura à parler après la pause, c'est-à-dire comment l'espace au fond s'impose par cette violence douce, cette contrainte, et comme effectivement un ordre. Entendez à la fois une discipline, une régularité, une symétrie, un commandement. Cette discipline sociale et territoriale d'une Italie qui est occupée par ces villes, toute occupée par ces villes, elle va à l'encontre de l'ordre impérial, romain. Ces communes se gouvernent désormais elles-mêmes avec pour modèle l'intelligence des anciens romains. Pour modèle. Mais, poursuit Otton de Freising, ils aiment si fort la liberté qu'ils refusent tout excès de pouvoir et préfèrent, pour les diriger, des consuls à des chefs. Ces consuls élus délibèrent, rendent la justice, sont dédaigneux des droits de l'empereur sur l'Italie, leur prince, à qui ils devraient d'eux-mêmes montrer une respectueuse obéissance, ils ne l'accueillent presque jamais avec respect, et ses décisions prises dans le respect des lois, ils ne se montrent pas obéissants. Alors, cette description est évidemment très célèbre parmi les historiens de l'Italie communale, parce qu'elle la caractérise, je le répète, depuis son étrangeté. C'est un texte indigné, donc qui produit une réaction intellectuelle, qui est précisément ce qu'on peut appeler la pulsion idéologique. Voilà pourquoi le témoignage du prélat ne doit jamais être pris au pied de la lettre. C'est ce qu'a montré Hagen Keller, qui a discuté la manière dont Otton décrit l'élection des consuls dans chacun des trois ordres. Ce n'est pas parce qu'il y a trois ordres, c'est parce qu'il voudrait qu'il y en ait. Donc, c'est toujours cette idée, la question de l'idéologie. Et comme l'a montré Jean-Claude Merwiger, il interprète, je parle d'Otton de Freising, il déforme les réalités sociales et institutionnelles de l'Italie communale en fonction de ses propres grilles de lecture communale, de ses propres grilles de lecture politique, que sont effectivement Rome, l'Empire et l'Antiquité. Parce qu'il ne faut pas oublier que Otton de Freising est non seulement un historien, mais un théoricien de l'histoire. Que ce moine cistercien qui a étudié la théologie, qui a participé à la deuxième croisade de 1147, au cours de laquelle il est entré à Jérusalem, a certes rédigé ses gestas sur l'ordre de Barberousse en 1157-1158, au moment où Barberousse tentait de reprendre ses droits impériaux sur l'Italie. Mais ce livre-là, on va dire d'histoire immédiate, doit être compris à l'ombre de sa grande chronique universelle des Duabus Civitatibus, les deux cités, qui embrasse l'histoire du monde depuis la tradition augustinienne des deux cités mystiques, même si à la fin de son livre, à l'horizon eschatologique, nous sommes bien ici dans l'eschatologie impériale de la souveraineté, ces deux cités se confondent en une seule, qui est l'Église. Donc, son histoire est un long éloge de Rome, puisqu'il suit les étapes de la translatio imperii des Romains aux Grecs, des Grecs aux Francs, des Francs aux Lombards, des Lombards aux Germains, et que, à l'horizon du monde dont il pressent l'élargissement, il est aussi célèbre pour intégrer dans sa narration la lettre du prêtre Jean, il a effectivement cette expérience méditerranéenne de la croisade, son histoire est orientée, et elle est orientée vers la décadence. Le monde va à sa perte. Voilà donc le point aveugle d'Otton de Freising. Et si on lui applique la méthode de Marc Bloch, parce que lui aussi, Frédéric Barberousse, va quand même subir une étrange défaite. Hein. Bon. Il s'agit bien de circonscrire l'expérience du témoin en se posant la question de l'angle mort. Qu'est-ce qu'il ne voit pas pour voir si bien ce qu'il voit ? Pour voir si bien ce qui vient, c'est-à-dire pour prévoir. Il ne voit pas précisément que l'Italie communale s'apprête à prendre des chemins qui bifurquent, à expérimenter en tous sens, pour le dire avec Giovanni Tabacco, à ne plus filer droit, à ne plus suivre docilement la voie unique qui mène à croire qu'il n'y a qu'une seule histoire possible et que cette histoire, la seule qui s'ordonne par le tout, est l'éloge de Rome. Il ne voit pas que ce qu'il espère et projette comme un horizon idéologiquement désirable, la poursuite de la translatio imperii, est un appauvrissement de l'expérience qui produira l'affaiblissement des États italiens. Il ne voit pas qu'en attendant, les communes italiennes inventent d'autres moyens de discriminer l'héritage romain, par exemple à Pise, où cette aristocratie des tours et des bateaux dont parlait Volpe gouverne la ville en inventant une autre manière de poursuivre l'histoire romaine où l'expérience politique n'est pas scandée par des répétitions, mais par des recommencements. Au moment même où Otton de Freising relate son voyage en Italie, avec, il est vrai, les yeux rivés sur la cité de Milan, qui lui semble la plus puissante, la plus arrogante, donc la plus dangereuse, il ne voit pas qu'à Pise s'invente une autre manière de poursuivre l'histoire romaine. Qu'on observe, par exemple, si on considère l'invasion du droit romain dans la vie sociale. Alors, ce n'est pas seulement, effectivement, une histoire intellectuelle, comme l'a montré Chris Wickham, c'est que les contrats, les sentences, les arbitrages font référence explicitement à des passages du Digeste à partir de 1105 et du Code à partir de 1156, que Pise est une des premières villes qui reprend les normes juridiques du corpus iuris civilis, qui sert de référence normative pour l'organisation des rapports entre les individus dans le cadre de la cité. Wickham fait remarquer, au terme d'une analyse précise de plusieurs cas, que les années 1150 constituent à Pise un vrai tournant dans la romanisation de la loi pisane et que ça résulte d'un choix idéologique qui témoigne d'une extraordinaire ambition à mettre en parallèle avec l'achèvement de la cathédrale et du baptistère, qui fait de Pise la Roma altera, l'autre Rome, comme un texte poétique très contemporain des années 1160 le dit. Donc pour une ville dont les habitants contrôlent alors une bonne part de la Méditerranée, l'occupent même, rivale de Gênes sur la mer et de Luc sur la terre, posséder une loi profondément marquée du sceau de la romanité, dire même d'une certaine manière sa fidélité gibeline, sans répéter l'histoire de Rome et la tradition, par exemple, lombardo-carolingienne de Luc, c'est au fond admettre que, comme le dirait Aldo Schiavone dans son beau livre intitulé « L'histoire brisée, la Rome antique et l'Occident moderne », paru en 2003 et sur lequel je m'étais appuyé l'année dernière dans le cours intitulé « Inventé dans les ruines du passé », c'est une manière de dire donc que le fil s'est rompu, mais que l'histoire peut se poursuivre si elle discrimine l'héritage. Or, qu'est-ce que décrivait Aldo Schiavone ? Il décrivait, au fond, le fait que ce qui disparaît avec la cité antique et le monde esclavagiste, c'est une société qui n'a jamais valorisé idéologiquement le travail et qui n'a toujours circonscrit la notion d'expérience politique à des communautés très restreintes. Alors que si on se tient effectivement à cette cité de Pise qui est effectivement gouvernée, je l'ai dit, par une aristocratie des tours et des bateaux, eh bien, on va considérer, c'est ce qu'on va faire à partir de maintenant, l'expérience politique dans sa totalité. C'est-à-dire avec, oui, des marins, des artisans, un monde affairé au travail. Au travail, effectivement, de l'expérience politique, mais aussi de l'expérience sociale tout court. Des lieux d'expérimentation qui, effectivement, ont à voir avec cette ville qui est affairée et prospère. Otton de Freising l'aime quand elle est affairée et la condamne quand elle est désobéissante. Mais elle est indocile parce que affairée, parce que occupée à ses affaires. Et occupée est d'ailleurs le mot juste. Et voilà pourquoi c'est l'un des élèves d'ailleurs de Jacques Le Goff, parce qu'au fond, tout cela, au fond, est cette l'ombre du grand travail de Jacques Le Goff, enfin, qu'il avait prévu, qu'il a fait par différents articles sur la valeur du travail. Et l'un des élèves de Le Goff, Sylvain Piron, dans un livre récent paru en 2018 aux éditions Zone Sensible, a intitulé « L'occupation du monde », une analyse qui reprend vaillamment la question weberienne de la domination occidentale ce qu'il appelle l'impensée théologique de la rationalité économique moderne, où on retrouve d'ailleurs la théorie des contrats de Pierre de Jean Olivier, dont je parlais il y a trois semaines, et d'une manière générale, l'émergence scolastique de l'économie politique. Et c'est pourquoi il faut prendre au sérieux la description d'Othon de Freising d'Italiens affairés et indisciplinés, qui sont occupés à leurs affaires, qui occupent les places et les lieux, physiquement. Et parce que c'est ça, des consuls, c'est effectivement une occupation de la place, et qui s'occupent du monde, et de plusieurs manières, multipliant les expériences. Et en cela, effectivement, pour le comprendre, il faut cesser d'être romain, c'est-à-dire se défaire de l'aristocratisme, de l'otium. C'est-à-dire pour qui être occupé, c'est s'aliéner. Et ici, nous retrouvons Pétrarque, pour terminer. Parce que, voilà, c'est avec séduction littéraire qu'il faut se battre, conscient, effectivement, se battre, ou en tout cas, simplement s'éprouver, comme George Steiner, d'ailleurs, qui est mort la semaine dernière, et qui, d'une certaine manière, l'ensemble de son œuvre est entièrement orientée aussi là-dessus. La certitude, effectivement, que la culture n'est en rien une défense contre la méchanceté du monde et l'impossibilité, pourtant, de ne pas faire droit à sa croyance de culture, de lettré. C'est dans le premier livre de la vie solitaire, rédigé dès 1346, que Pétrarque définit le plus clairement et le plus complètement la forme de vie que pose la condition d'écrivain, qui doit résider dans l'écart, l'éloignement, la mise à distance, non pas l'ascèse, mais disons la séparation, le fait de s'excepter temporairement de la foule, de vivre d'autres expériences qui sont liées aussi à ce laboratoire politique de la communauté monastique dont on parlera dont on a parlé la semaine l'année dernière, sauf que Pétrarque n'est pas un professionnel de la solitude, c'est un intermittent de la solitude, même s'il en fait grand spectacle. Mais effectivement, dans la vie solitaire, il réécrit en grande partie Sénèque, et il compare la journée d'un homme pris par ses affaires dans le monde urbain et à celle d'un homme retiré à la campagne. Le premier, celui qu'il appelle l'occupé, le premier s'en va triste au forum, plein d'affaires et d'ennuis, et augure au vol des oiseaux ce que sera la journée qui commence. Le second va tout allègre dans la forêt voisine, remplie de calme et de silence, et franchit dans la joie le seuil heureux d'une journée sereine. Donc, on préférerait être le second, non ? La vie active, soumise aux urgences, est profondément aliénante. Les occupati sont ceux que les affaires d'autrui accaparent, que dirige la volonté d'autrui, et qui apprennent sur le visage d'autrui ce qu'ils ont à faire. Vous voyez, ça, c'est intéressant parce que on commence par avoir envie d'être avec Pétrarque dans la vie solitaire, et au fur et à mesure qu'il nous décrit les occupés, les solitaires, en revanche, qui se retranchent du vacarme, qui obtiennent de cette soustraction un gain d'être, qui vient se loger dans une âme clivée, cette disponibilité, cette vacuité, ou plutôt, c'est ce que écrit Pétrarque, je préfère ce mot, cette vacance est la source des lettres et des arts. Alors, là encore, creuser en soi une vacance, une indisponibilité, l'intériorité comme manque de soi à soi, ce repli que creuse la mystique qui est au cœur, effectivement, de l'idée même moderne d'un individu qui se niche disons, en soi un temple intérieur qui est accueillant à Dieu et, si Dieu s'absente, à tout ce qu'on pourra diviniser, à commencer par la création culturelle. C'est ce qu'il appelle le secretum, le secret, et c'est effectivement le cœur de la vie lettrée. Et encore une fois, c'est très beau. Mais tout cela s'accompagne d'une conception aristocratique du public, de son public, qu'il rêve d'entraîner à l'écart du monde, comme les happy few de Stendhal. Je ne m'adresse pas à tout le monde, mais à toi, à moi, à la poignée d'hommes auquel convient ce choix d'exception. Sinon, si nous suivons notre propre nature et non les propos du peuple, il n'y a rien qui soit mieux fait pour nous. On suit chez Pétrarque la pente qui mène de la haine des urgences de la ville à la haine du peuple. Sa critique de l'occupatus est une critique qui finit par être celle de l'utilité des métiers. Laissons la ville aux marchands, aux avocats, aux trafiquants, aux usuriers, aux fermiers, aux notaires, aux médecins, écrit-il au second livre de la vie solitaire et dans son invective contre un médecin, justement. Il s'en prend aux méchants, criminels, malandrins, mais aussi aux mécanici, les artisans mécaniques, qui n'ont pour but que de gagner de l'argent et de tromper le monde. Avec le peuple, il ne peut rien partager. Je me tiendrais pour très heureux si je parvenais à être tout le contraire de ce qu'est le peuple. Et je me suis toujours efforcé d'y parvenir. Vous voyez, effectivement, le bivium, ce sont deux pentes. Vous voyez où elles mènent, vous voyez où ça dévale. Et cette critique romaine, au nom, justement, de l'aristocratie romaine, des occupati, elle désigne, précisément, le lieu de l'expérience. La ville, occupée, occupée du monde, en train, effectivement, de construire aussi les ressorts de sa puissance, de la domination occidentale qui va occuper le monde, pour le meilleur et pour le pire. Mais c'est cette question-là, au fond, de la pluralité des expériences qui, creusée au cœur de la diversité politique et sociale de l'Italie communale, c'est cette question-là donc qui retiendra notre attention. Bonne journée à vous.